Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vous pourrez commenter la décision de la justice française de valider l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. François Compaoré, frère de l'ancien président, il est considéré comme le principal suspect dans l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Mais la procédure est loin d'être terminée, car pour l'extrader, il faut encore un décret du gouvernement français, lui-même susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. En tout cas, le ministre burkinabé de la Justice se dit serein, optimiste. Le CDP, l'ancien parti au pouvoir, dénonce quant à lui une décision à connotation politique et dit craindre une justice de vengeance. On en parle évidemment ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de RFI. Vous avez écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien on vous répond évidemment en direct. Et on va commencer avec des questions sur la situation en Algérie, où la situation est confuse, hein, disons-le clairement, on n'y voit plus trop clair après la décision du Conseil constitutionnel de reporter les élections qui étaient prévues dans un mois, le 4 juillet. Bonjour Kossi.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Merci de nous appeler de Lomé au Togo, nous vous écoutons.
Bon, l'élection présidentielle algérienne a été annulée suite à l'invalidation des deux seules candidatures. À ce propos, j'ai deux questions.
Oui.
La première question. Le général Gaïssala a évoqué la possibilité d'un dialogue avec l'opposition et la société civile. J'aimerais savoir qui pourrait y participer.
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger, a un élément de réponse. En tout cas, nous l'avons contactée. Bonjour Leïla.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Je le disais à l'instant, la situation est confuse en Algérie. En tout cas, pour sortir de l'impasse, le chef d'état-major de l'armée, donc le nouvel homme fort de l'Algérie, prône le dialogue. Il veut dialoguer avec qui? Avez-vous des informations?
Alors la perspective de dialogue est évoquée par plusieurs groupes au sein de la société algérienne. Il y a d'abord la société civile, mais aussi certains partis d'opposition ou encore des personnalités politiques qui ont exprimé publiquement leur position pendant les 3 mois et demi de mobilisation. Ahmed Gaïd Salah, donc le chef d'état-major, a appelé au dialogue et à des concessions mutuelles dans un discours prononcé le 28 mai, il y a un peu plus d'une semaine, mais il affirmait en même temps qu'il fallait aller vers des élections présidentielles, et vous le disiez tout à l'heure, depuis ce discours, le scrutin du 4 juillet a été annulé. Alors ce contexte-là a plusieurs conséquences. D'abord, ceux qui manifestent chaque semaine sont très critiques vis-à-vis du chef d'état-major et ils craignent qu'il ne prenne beaucoup de place dans une éventuelle transition et les manifestants demandent son départ. Autre conséquence, c'est que si les autorités ont jusqu'au 28 mai dernier rejeté le dialogue, la société civile, elle, a commencé à travailler sur cette question. Chaque samedi, depuis plus de 2 mois, des collectifs, des associations, des syndicats se réunissent pour discuter de ce qui pourrait être un plan de sortie de crise, et une très grande réunion nationale est prévue à Alger dans une semaine. Parallèlement, des partis politiques d'opposition comme le parti d'Ali Benflis, ancien chef de gouvernement, ou les principaux partis islamistes du pays se réunissent régulièrement et arrivent à des positions communes sur certaines questions.
Ouais, en tout cas, quoi qu'il se passe, il ne faut pas oublier, Leïla Berato, qu'il y a encore des obstacles avant ce dialogue.
Oui, d'abord, la société civile ou les partis d'opposition n'ont pas la confiance de la population. Il a été impossible pour le moment de trouver des représentants du mouvement, car les manifestants n'en veulent pas, et la question de la légitimité de ceux qui négocieront à la place de la population se posera forcément. Et la deuxième inconnue, c'est avec qui les autorités accepteront de discuter. Et enfin, la dernière problématique, c'est que ceux qui manifestent demandent le départ des autorités. On ne sait pas donc dans quelle mesure ces négociations avec ces mêmes autorités seront acceptées.
Effectivement, beaucoup d'interrogations donc à l'heure qu'il est. Kossi, vous aviez une dernière question.
Oui, le Abdelkader Ben Salah va-t-il quitter son poste de président par intérim.
Ah, quid du président par intérim? Voilà une bonne question, Leïla Berhato. La période d'intérim est censée prendre fin au début du mois de juillet. Va-t-il rester en poste ou va-t-il tout simplement se retirer comme l'exigent les manifestants?
Alors, effectivement, il a un mandat de président par intérim jusqu'au 9 juillet. Mais il est vrai que dans le communiqué pour annuler les élections, le Conseil constitutionnel dit qu'Abdelkader Ben Salah doit accompagner l'organisation d'un autre scrutin. Seulement, selon la loi algérienne, organiser un scrutin prend 3 mois. Donc, si on calcule, on va plus loin que le juillet prochain. Et c'est ce qui laisse penser certaines personnes qu'Abdelkader Ben Salah pourrait être maintenu à la tête de l'État. Pour autant, l'homme fort de l'Algérie aujourd'hui reste Ahmed Yaïd Salah, le chef d'État-major, et c'est vers lui que les regards se tournent. Les manifestants demandent le départ d'Abdelkader Ben Salah parce qu'il est proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et parce qu'il a été aux responsabilités ces 20 dernières années. Au-delà des décisions politiques, la presse algérienne évoque des problèmes de santé graves du président par intérim. Mardi, lors de la grande prière de l'Aïd diffusée à la télévision, il est effectivement apparu très affaibli.
Effectivement, et ça a suscité beaucoup de commentaires, hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux en Algérie. Certains internautes reprochent à la présidence de cacher son état de santé. Affaire à suivre là aussi. Merci beaucoup, Leïla Berhato. Bonne journée à Alger. On remercie Kossi qui nous appelait de Lomé. Des questions maintenant sur la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen à Pékin. On vous en a parlé cette semaine. L'anniversaire, c'était avant-hier, le 4 juin. Bonjour Trésor.
Bonjour Michel Gomez.
Vous êtes à Kisangani en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Il y a 30 ans, avait lieu des massacres des étudiants chinois à Tiananmen, en Chine. Le gouvernement chinois a réprimé la manifestation des étudiants chinois. Aucune commémoration n'a eu lieu en Chine. Maintenant, j'aimerais savoir. Pourquoi ce sujet est-il tabou? Existe-t-il un travail de mémoire d'événements?
C'est vrai que l'événement n'est pratiquement jamais évoqué dans la presse chinoise, ni dans les livres, ni dans les films. Le régime censure toutes les références sur Internet. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, expliquez-nous pourquoi, 30 ans après le massacre de Tiananmen, le sujet reste encore tabou en Chine.
Alors, il y a d'abord cette omerta effectivement au niveau de l'État, hein. Le gouvernement chinois ne veut pas qu'on en parle, donc du coup, eh bien les médias s'autocensurent ici, les réseaux sociaux sont très surveillés et à la moindre allusion, les censeurs sortent immédiatement les ciseaux. Le printemps de Pékin ne figure pas dans les manuels scolaires en Chine, on ne peut pas en parler à l'université, tout est très verrouillé, Juan, tout simplement parce qu'il est question d'une répression militaire de l'armée qui tire sur la jeunesse. Donc il y a ce premier verrou de la mémoire, cette amnésie générale forcée, mais il y a aussi une amnésie volontaire, j'allais dire, une sorte de déni générationnel. De nombreux anciens de la place de juin, j'évite d'employer les mots-clés pour pas que ça coupe, hein. Des anciens manifestants sont devenus des parents et ils n'ont rien dit à leurs enfants. Ils n'ont pas voulu leur dire, peut-être en raison du traumatisme, peut-être aussi pour les préserver, pour éviter que ces derniers ne portent les stigmates de ces événements et que cela nuise à leur vie professionnelle, à leur vie personnelle. Donc on en a peu parlé finalement en famille ici.
Ouais. Rappelons tout de même que la répression a fait, selon la Croix-Rouge, 2600 morts et des milliers de personnes avaient été à l'époque arrêtées. Trésor nous demandait si tout de même il n'existait pas un travail de mémoire autour de ces événements.
Là aussi, difficile de répondre en quelques mots, mais on peut dire que malgré toute cette censure, un aussi grand pays que la Chine n'est pas un aquarium, hein, donc il y a toujours des informations, et d'ailleurs, malgré la censure, encore une fois, on en parle, même à mot couvert. L'historien Zhang Lefan, qu'on a rencontré en préparant ces reportages, nous expliquait il y a peu c'est comme un puzzle finalement la mémoire et que chaque témoin dispose d'une ou plusieurs pièces du puzzle. Alors évidemment les témoins vieillissent, donc c'est une bataille de la mémoire contre l'oubli et encore une fois ces témoins disparaissent petit à petit, mais il y a donc ce puzzle, il faut le reconstituer, ça prendra du temps. Moi j'ai remarqué aussi en rencontrant ces anciens témoins que beaucoup, énormément de gens prenaient des photos à l'époque, c'est un peu une révolution Kodak, hein, sans vouloir citer de marque, à l'époque c'était le début de la photographie de masse en Chine et donc beaucoup de témoins, pas simplement les indiques de la police, des étudiants, des professeurs, tout le monde prenait des clichés de cette place et puis également des avenues, des manifestations et donc peut-être qu'un jour, dans les boîtes en fer, sous les sommiers, dans les armoires, à la campagne notamment, on verra toutes ces photos ressortir et peut-être qu'il y aura un travail travail de mémoire ici aussi. Peut-être qu'à jour, l'État chinois rouvrira les archives et donc on pourra enfin travailler et reconstituer cette mémoire.
Les explications de Stéphane Lagarde. Merci Stéphane d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Trésor qui nous contactait de Kisangani. Il est 10h21 à Paris. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Nous répondons à toutes vos questions. Aucun sujet n'est tabou, donc surtout n'hésitez pas. Et si vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux, surtout envoyez-nous vos coordonnées en message privé. Ça évitera que tout le monde connaisse vos numéros personnels. Anne Souhaitemont du service politique de RFI nous a rejoint. Bonjour Anne.
Bonjour.
Des questions sur la politique française après la cinglante défaite du parti Les Républicains aux élections européennes.
8,48%.
Voilà. Désormais quatrième parti français.
Exactement.
Loin derrière le Rassemblement National de Marine Le Pen, le parti de la majorité présidentielle et Europe Écologie Les Verts. Serge, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez des questions, nous vous écoutons.
Bon, ma question est la suivante. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a tout récemment annoncé sa démission de la tête du parti. Hier encore, c'est Valérie Pécresse du parti qui annonçait son départ. Comment expliquer que personne ne se soit manifesté pour prendre la tête du parti?
Alors, Anne Souhaitemont...
Cette période d'incertitude.
Alors, on va déjà répondre à cette première question, évidemment, qui est très commentée, Anne Souhaitemont. C'est vrai que aucun ténor ne s'est encore officiellement déclaré candidat à la succession. Et en plus, Valérie Pécresse, qui était tout de même l'une des figures du parti, a décidé de claquer la porte.
Oui, alors effectivement, Rouen, c'est un peu toute la question en ce moment. Pourquoi personne n'y va? Alors, vous l'avez dit, Serge l'a rappelé, Valérie Pécresse, hier, a annoncé à la surprise générale qu'elle quittait le parti, donc qu'elle n'allait pas se présenter. Alors, ça faisait un an et demi qu'elle était l'ennemi numéro un de Laurent Wauquiez. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas? Eh bien parce que selon elle, c'est ce qu'elle a dit sur France 2 chez nos confrères, parce que le parti est gangréné de l'intérieur dans son organisation et dans ses idées. En fait, c'est une manière de dire qu'il est aux mains des militants d'une ligne en fait assez dure, en fait d'une ligne Laurent Wauquiez, c'est là où est un peu tout le paradoxe, c'est pas du tout d'une ligne modérée ou d'une ligne centrale qui serait plutôt la ligne qui est portée par Valérie Pécresse. Elle le sait, c'est ce que m'ont dit hier plusieurs ténors que j'ai eu au téléphone après l'annonce. Si elle avait été candidate à la succession de Laurent Wauquiez, en fait, elle n'aurait pas gagné. C'est sans doute le début d'explication pour Valérie Pécresse.
Alors, qui d'autre pour être candidat et devenir président des Républicains? Est-ce qu'il y a des noms tout de même qui circulent?
Alors, il n'y en a pas. D'abord pour deux raisons. Un, parce que la place n'est pas vraiment enviable. Reprendre un parti qui va bien, c'est se mettre en orbite pour la présidentielle. C'est pas du tout le cas là. Là, prendre le parti en l'état, c'est éventuellement prendre le risque de mettre la clé sous la porte dans quelques mois, quelques années. Ensuite, parce qu'on ne sait toujours pas quand aura lieu cette élection, il y a un débat qui est en cours en ce moment, ça pourrait être après l'été, ça pourrait être aussi beaucoup plus tard après les municipales. Alors, il y a quand même quelques noms qui circulent, le premier d'entre eux, celui qui est dans toutes les bouches, mais depuis quelques jours seulement, c'est là où c'est intéressant, c'est celui de François Baroin, qui est
François
très
Baroin.
Silencieux, voilà, vous avez bien entendu, les auditeurs se souviennent sans doute hein, quand même de cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui est à la tête de l'AMF, l'Association des maires de France, qu'on n'a quasiment pas entendu.
Quasiment pas vu depuis deux ans.
Voilà, alors on l'a vu il y a deux jours auprès de Gérard Larcher, mais c'est vrai qu'il parle pas du tout. Et lui, alors, on nous dit, ce serait peut-être la meilleure des solutions qui nous arriverait, c'est ce que me disait un député.
Donc il apparaît comme l'homme providentiel.
Jours. Peut-être, bon. C'est un des noms qui circulent. Il y en a d'autres, Bruno Retailleau, chef de file au Sénat. On parle aussi d'autres députés que vous avez peut-être en tête, comme Guillaume Pelletier ou Daniel Fasquelle, mais vraiment rien n'est joué puisque c'est très instable en ce moment, on l'a encore vu hier soir.
Alors, j'ai coupé la parole à Serge, qui avait une seconde question. Serge. Ah bah voilà.
Il est parti du coup.
Voilà, j'aurais pas dû, j'espère qu'il n'est pas vexé Serge. Bon Serge qui voulait savoir s'il n'y avait pas un risque que les électeurs des Républicains se tournent vers La République En Marche, vers le Rassemblement National. Effectivement, c'est peut-être déjà le cas même.
Alors ça a été le cas le 26 au scrutin des Européennes. On sait qu'il y en a beaucoup des électeurs de droite qui ont voté pour Emmanuel Macron. On sait aussi un certain nombre d'entre eux sont partis au Rassemblement National, qu'il a d'ailleurs bien compris. Des appels des deux côtés ont été envoyés aux électeurs LR. Rejoignez-nous. Par exemple, Sébastien Lecornu, le ministre secrétaire d'État au budget, a lancé un appel formel. D'où la fameuse question du calendrier. Est-ce qu'il faut que ça aille très vite, qu'on trouve vite un nouveau président? pour arrêter l'hémorragie, ou est-ce qu'il faut qu'on attende pour avoir une ligne un peu claire? C'est toute la question.
Et on suivra ce feuilleton, notamment avec vous, Anne Souhaitemont, et l'ensemble du service politique de RFI. À bientôt, Anne.
À bientôt.
Et on salue évidemment Serge, hein, j'espère qu'il a pu écouter la fin de vos explications, Serge, qui nous appelait de Yaoundé. Il nous reste 5 minutes. Bonjour Jérémy. Que dis-je? Bonjour Enoch.
Bonjour Anne Gomes.
Jérémy, c'est la ville d'où vous nous appelez. Vous êtes en Haïti. Jérémy, c'est à l'ouest d'Haïti. Et vous avez des questions concernant justement votre président qui est secoué en ce moment par un scandale.
Oui, oui. Donc la Cour supérieure des comptes d'Haïti a rendu public une enquête sur la gestion du fonds pétrocarburant, accusant le président Jovenel Moïse de détournement de fonds. Ma première question. Le chef de l'État peut-il être poursuivi par la justice ou même destitué? Maintenant, que dit la loi haïtienne à ce sujet?
Alors, on va vous répondre. C'est vrai que le président haïtien est accusé d'être au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême des comptes. Bonjour Éric Sauret.
Bonjour.
Spécialiste d'Haïti, politologue, avocat au barreau du Val d'Oise. On parle de l'argent du fonds Pétro-Caribe. De quoi s'agit-il en quelques mots d'abord?
Alors, le fonds Pétro-Caribe, c'est un fonds avec de l'argent qui provient d'un accord qui a été signé entre Haïti et le Venezuela, hein, dans le cadre de l'alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela. Alors, rapidement, ça permet à Haïti d'acheter du pétrole à bon marché, on va dire. Ensuite, une partie est payée au comptant. Et le reste est payé sur une durée entre 17 et 25 ans. Et ce reste donc, ce solde, ce reliquat, Haïti eh bien, a créé ce qu'on a appelé un bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. C'est-à-dire qu'avec le montant affecté à ce compte fonds Pétro-Caribé, compte logé à la Banque nationale de crédit en Haïti, eh bien, Haïti devait réaliser des programmes et des projets de développement.
Oui, pour construire notamment des hôpitaux, des écoles. Comment le nom du président de la République est apparu dans ce scandale?
Alors, le nom du président de la République est apparu, non pas en tant que président de la République, ça c'est très important de le dire. Et je sais qu'il y a de très très bons juristes en Haïti qui doivent éclairer les citoyens haïtiens sur cet aspect-là. Son nom est apparu parce qu'il a visiblement au moins une entreprise, Agritrans, qui était spécialisée dans la vente de bananes, d'après ce qu'il disait, et une autre entreprise. Et ces deux entreprises ont bénéficié de deux contrats dans le cadre de l'ensemble des projets qui ont été financés par l'État haïtien avec la somme qui était considérable, hein, qui était donc, qui consistait en reliquat du fonds Pétro-Caribé, plus de 2 milliards d'euros. Hein. La somme, c'est 2 238 064 000 dollars, en euros si on arrondit, 2 milliards. Donc une somme considérable de l'argent de l'État haïtien qui a été très très mal utilisé, et donc son nom apparaît uniquement en tant que président au moins d'une entreprise et dirigeant d'une autre, et ces entreprises ont bénéficié de contrats qui ont été signés dans des conditions irrégulières d'après ce que dit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Effectivement, il faut rappeler que c'est important de le dire, hein, que Jovenel Moïse, avant d'être président, était homme d'affaires. Dans l'opposition, certaines voix appellent à la démission du président. Est-ce qu'il peut être poursuivi pour répondre en quelques mots et rapidement à la question de notre auditeur?
Alors, si on le poursuit en tant que président de la République, ça, ce n'est pas possible, puisque dans le rapport, on ne dit pas qu'il a commis des actes en tant que président de la République. En revanche, s'il est poursuivi pour les faits qui ont été commis avant qu'il n'accède à la présidence de la République, eh bien, comme tout citoyen, il doit pouvoir répondre de ce dont on l'accuse. Néanmoins, il ne peut être entendu que si l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les premiers ministres, les présidents, les ministres, les directeurs généraux et les hommes d'affaires d'Haïti, enfin, tous ceux qui sont indexés dans ce rapport, qui sont accusés, que si tous ces gens-là comparaissent. Pour certains, ce sera la haute cour de justice, parce que certains étaient ministres et ont commis des actes, d'après la Cour, en tout cas supérieure des comptes, dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, pour M. Jovenel Moïse, avant qu'il ne soit président, eh bien lui n'était pas dans l'exercice de fonctions publiques.
Effectivement, il était homme d'affaires. En tout cas, là aussi, le feuilleton judiciaire s'annonce particulièrement long en Haïti. Merci beaucoup Éric Sauret, politologue, avocat au barreau du Val d'Oise. Merci de nous avoir éclairé sur cette affaire et ce scandale Pétro-Caribe. Restez avec nous, tout de suite on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI.